La notion de microcosme, en hébreu Olam Katan, le petit monde, assimilé au corps humain apparaît dans un commentaire rabbinique de la Bible, le Midrash Tanchuma. Selon ce texte, chaque membre du corps humain dérive d'éléments situés dans le corps cosmique. Les parties du corps sont disposées selon l'ordre du monde voulu par Dieu lors de la création. L'être humain, dans son aspect physique, prend sa source et possède un équivalent dans le monde d'en haut. Le corps est un reflet miniaturisé de la structure céleste. Quant à l'âme, c'est un miroir qui réfléchit les entités spirituelles des mondes supérieurs. L'idée d'un rapport entre le microcosme et le macrocosme se rencontre dans une multitude de traditions philosophiques et religieuses, dont les plus anciennes traces remontent à la philosophie orientale et au gnosticisme. Nous en trouvons d'innombrables échos dans la tradition rabbinique, mais un des textes les plus représentatifs reste sans doute ce passage des Avot de Rabbi Nathan, un commentaire midrashique compilé entre le 7e et le 9e siècle, qui pousse à l'extrême la correspondance entre le corps, le paysage, la nature et le cosmos. Ce texte est une introduction à un ouvrage de Jean Baumgarten qui a été publié certes en 2017, mais qui, je pense, a vraiment besoin qu'on le rappelle à votre sagacité et à votre curiosité. Cet ouvrage s'intitule « Le petit monde, le corps humain dans les textes de la tradition juive, de la Bible aux Lumières ». Penser le corps, effectivement, penser la matérialité, mais en même temps la relation à l'esprit et au divin est un souci constant des religions du livre, chacune d'entre elles formulant de manière singulière, qui lui est propre, les débats qu'elle entretient à ce sujet. Les représentations, les codes de conduite qui en découlent, largement évolutifs au fil du temps, dans la tradition juive, à travers son usage constant de la critique textuelle de l'herméneutique, a développé autour du corps une réflexion foisonnante, en des termes parfois si contradictoires, notamment entre les cercles savants et les courants piétistes comme le chassidisme, qu'elle invite à questionner l'idée même de tradition religieuse au singulier. Et donc Jean Baumgarten, historien du judaïsme, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de nombreux essais sur la culture ashkénaze, sur le chassidisme, a publié, donc en 2017, ce « Petit monde, corps humain dans les textes de la tradition juive de la Bible aux Lumières », publié chez Albin Michel. Je rappelle quelques-unes de ses autres publications. La naissance du chassidisme, mystique, rituel et société. Aux origines du judaïsme. Rabbin et savant au village. L'étude des traditions populaires juives, 19e et 20e siècle. Ce livre, dit Jean Baumgarten, est parti d'une constatation. Le foisonnement de textes autour du corps. Et en même temps, en lisant des histoires du corps parues assez récemment, au début du 21e siècle, il a été frappé de voir combien dans les ouvrages sur la tradition gréco-latine et chrétienne, il y a peu de considérations sur la manière dont on envisageait le corps par rapport à d'autres traditions religieuses, depuis l'Inde, l'Asie, le monde arabo-musulman et le judaïsme. Il ajoute... être parti du verset de la Genèse, des deux histoires de la création, je vous renvoie à Genèse 1 et 2, à partir desquelles on voit un foisonnement de textes autour des réalités somatiques, donc du corps, ainsi que la relation entre les réalités du monde d'ici-bas et les réalités supérieures, le monde divin, le macrocosme, l'univers dans sa totalité avec les planètes et les astres. Il fonde sa réflexion non pas sur le fait qu'il y ait deux domaines, le haut et le bas, mais surtout quelles sont les passerelles, les ponts, les correspondances entre les deux. Dès le premier récit, Dieu nomme les êtres et les choses à partir de la lettre hébraïque. L'être humain est créé, la créature est androgyne, je vous rappelle, homme et femme, mâle et femelle, il les créa, ish ve isha. Et ensuite, il y a division, séparation. La parole de Dieu est centrale. Le second récit, dans la Genèse également, création du premier homme, et Dieu va alors prendre un côté ou une côte d'Adam, le mot est très ambigu, la polysémie de l'hébreu évidemment y est pour quelque chose. Langue biblique ramassée, télescopage à l'infini, ajoute Jean Baumgarten, donc création de Ish. Et le nom divin va adjoindre Lev, Ève, Chava, la mère des vivants, dans ce paradis, jusqu'à la faute, la séparation du masculin et du féminin. Citation. Le corps peut être lu comme un énoncé, décrypté tel un palimpseste à partir duquel on peut entrevoir des signes des mondes supérieurs. Il est alors perçu comme un assemblage de lettres hébraïques dont il convient de déchiffrer les significations. Les mouvements, les gestes, les pulsions, les manifestations somatiques, révélées ou cachées, les marques corporelles sont interprétées comme le serait un texte sacré. La lettre hébraïque articulée, associée à des voyelles qui sont, comme le dit Spinoza, l'âme des lettres, est en premier lieu le signe d'un mouvement de la bouche. Et comme le monde a été créé au moyen du nom divin et des lettres hébraïques grâce à leur combinaison, elle constitue une parcelle du divin. Ainsi est établie une correspondance entre la parole, le souffle des lettres, le discours et le divin. De même que l'accentuation, l'intonation, la cantillation expriment les affections de l'âme, de même les signes imprimés sur le corps, le rythme corporel, depuis la quiétude, la sérénité, le plaisir, jusqu'aux remous, tremblements et turbulences, sont interprétés comme des marques divines, des révélations venues des sphères supérieures. Les organes sont assimilés à des signes graphiques dont la combinaison, les relations sont, elles aussi, apparentées à des énoncés. Des messages venus du monde divin sont, pour ainsi dire, inscrits dans la structure anatomique. Les lettres peuvent parallèlement évoquer l'image du visage humain qui renvoie dans certains courants de la tradition juive à l'idée de l'organicité divine. Chez les mystiques, de même, le corps physique est transformé en texte, manière de s'associer au divin, dont des parcelles sont contenues dans les lettres de l'alphabet hébraïque. Le corps signe peut ainsi dessiner des lettres hébraïques, prendre la forme du tétragramme, lettres par lesquelles le monde fut créé, et devenir le trait d'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Fin de citation. Dans la tradition juive, le mot Neshama est aussi le souffle, la respiration de Dieu. Dieu insuffle cet esprit à la matière d'un point de vue spirituel, maître de la transcendance dans sa création. Mais aussi, le respire de Dieu qui souffle sur sa création et comme, dans la légende du golem, lui insuffle le vivant. Donc, unité, complétude entre matière et esprit, mais aussi courant radicalement différent dans la tradition. Inspiré par la gnose, christianisme, avec préséance de l'esprit sur le corps. Des interprétations aussi bien somatisées en lien avec le corps que essentialisées qui privilégient l'âme et l'esprit. Le corps, à ce moment-là, est complètement discrédité et considéré comme l'objet de forces destructrices, négatives, en proie au plaisir et au désir. Les représentations du corps divin. Dieu est représenté souvent comme un corps. Le but du livre est de montrer la complexité de ces traditions et de renverser les idées reçues. Deux conceptions s'opposent, celle de Maïmonide, dans le guide des égarés, lui qui considère qu'il est impossible de représenter Dieu, dont l'incorporéité va au-delà de l'entendement, des catégories intellectuelles qui permettent de l'appréhender. Le Derech HaLo, la voie du non, la voie V-O-I-E, peut-être aussi V-O-X, décrire Dieu par des attributs négatifs, car il dépasse la possibilité qu'offre le langage de le définir. Mais il y a aussi, contrairement à Maïmonide, des courants plus marginaux, plus populaires, à cause des traditions philosophiques dans lesquelles Dieu a un corps, voire les traditions de l'Orient ancien, un roi assis sur un trône entouré de ses messagers, les anges, un Dieu anthropomorphisé. Dans les Midrashim, on évoque les yeux, les pieds, les mains de Dieu. Voire par exemple en Exode, le don de la Torah, Dieu apparaît dans un nuage, Dieu s'adresse à Moïse, on parle de son visage, de son corps. L'idée de la face également. Invisible, car quiconque pourrait voir le visage de Dieu serait immédiatement terrassé. On est toujours dans ce jeu entre le révélé et le caché. Dans la métaphore du visage divin, il y a l'icône, la représentation figurée de Dieu, et d'autre part, Dieu demeure invisible et caché, transcendance et immanence par le jeu du visage. Dieu parle à Moïse face à face, panim el panim, comme parle un homme à son prochain, dit le texte. Exode chapitre 33, verset 11. De même, Dieu se fait connaître à Moïse dans une vision, bamara, dans un songe, chalom, mais pas par des énigmes, bechidot. Il parle avec lui, bouche à bouche, paix el paix. Moïse regarde l'image, Tumunat Adonai, l'image de Dieu. Ailleurs, il est dit que Moïse désire ardemment voir le visage de Dieu. Mais aucun humain ne peut affronter son regard sous peine de mort immédiate. Dieu prévient Moïse quand il descendra au mont Sinaï, aux yeux de tout le peuple, ce sera entouré d'un épais nuage, Be'av Be'anan, ce qui signifie une protection, une couverture, une sorte de vêtement pour cacher sa présence. Dieu fixe également des limites tout autour de la montagne, une frontière que le peuple d'Israël ne devra pas franchir. Même une simple sensation tactile, un simple toucher sont interdits, sous peine, pour tout transgresseur, de mort par lapidation. Dieu s'annonce dans un déluge de tonnerre et de flammes. Le peuple, pétrifié de crainte, se tient dans l'éloignement, merachok. Seul Moïse s'approche de la nuée. Et il en est de même de quand Dieu se montre à Moïse et à Aaron. Je recite. Moïse monta avec Aaron, Nadav, Avihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage en plaques de saphir. Livnat ha-Sapir, Exode 24, versets 9 à 11. Et d'une pureté pareille à la substance des cieux. Et sur ses privilégiés, des fils d'Israël, il n'étendit point sa main. Ils virent l'Élohim, puis ils mangèrent et bu. Fin de citation. Passons à présent au pur et à l'impur. Il y a énormément de thématiques abordées dans cet ouvrage qui est tout de même assez substantiel puisqu'il fait un petit peu plus de 300 pages. Mais la lecture est absolument passionnante. Donc le pur et l'impur, la créature humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une relation de complétude et de ressemblance. Il est important que le corps ne soit pas scarifié, ne soit pas mutilé, ce qui serait considéré comme une sorte d'offense à la création divine et notamment au corps imprégné d'une parcelle de sainteté, les fameuses étincelles de sainteté venant de Dieu, qui imprègnent le corps. Et toute atteinte est une atteinte directe à Dieu. Importante est cette notion de complétude et d'intégrité. Il ne faut pas abîmer le corps, ne pas faire couler le sang, les tatouages sont interdits. La seule pratique autorisée demeurant bien entendu la circoncision. Ce n'est pas un dogme, c'est un fondement de la singularité du peuple juif. Au huitième jour, l'enfant mâle, pour son entrée dans l'alliance de Dieu, son appartenance au peuple juif, est circoncis. Il s'agit d'une connotation sociétale, communautaire, plus qu'une dimension mystique. Dans la Kabbale et le Zohar, le phallus est assimilé à la lettre Vav, du nom divin. Et le fait d'enlever cette partie, le prépuce, est considéré comme l'adjonction de la lettre He, c'est-à-dire graver sur le corps du nouveau-né cette partie du nom de Dieu, et donc une manière d'intégrer ce nouveau-né dans la communauté d'Israël. Donc en fait, il s'agit bel et bien, excusez mon lapsus, de la dimension mystique de la circoncision. Et comme le disent les textes mystiques, relier les séphirot, les attributs divins, relier le corps directement au monde supérieur. La dimension sociale, politique, religieuse, mystique, tout cela fait partie de ces rites qui distinguent, qui classifient le pur et l'impur, le haut et le bas, ces catégories qui permettent d'inscrire l'individu, le corps, dans tout un système de permis, interdits, licites, illicites. Les organes corporels, je cite le texte de Jean Baumgarten, les organes corporels sont alternativement des vecteurs de qualité ou au contraire des agents de désordre, de perversité, d'impureté, comme l'explicite ce fragment tiré du Midrash Rabba. Il y a six organes corporels qui sont au service de l'être humain. Trois sont sous son contrôle et trois ne le sont pas. Les yeux, les oreilles, le nez sont indépendants de sa volonté. Il voit, entend et sent même des choses qu'il ne veut pas. La bouche, les mains et les jambes sont sous le contrôle de l'être humain. S'il le veut, il peut s'en servir pour étudier la Torah. Mais s'il le désire, il peut les utiliser pour répandre des rumeurs, blasphémer, injurier Dieu. Il peut donc tenir des propos décents ou injuriés. Ses mains peuvent accomplir des commandements divins ou elles peuvent voler ou tuer. Les pieds peuvent l'amener au théâtre, au cirque, ou bien à la maison de prière ou d'études. Fin de citation de ce Midrash Rabba. Je poursuis avec Jean Baumgarten. Bien plus, selon l'équation entre le haut et le bas, tout manquement au devoir sur Terre provoque un dommage dans la partie correspondante des mondes supérieurs, comme l'explicite bien Chaim de Vologine. Un juif ne doit jamais se dire « qui suis-je ?» et de toute manière, quelle influence peuvent avoir mes actions ? Une personne doit comprendre et intérioriser que le moindre détail de chaque action, parole ou pensée, n'est jamais perdu. Tout au contraire, ces actions sont puissantes et ont un grand impact. Chacune d'entre elles monte vers les mondes supérieurs où elle a une incidence. Lors de la mythologie des récits de la création, il y a l'autre côté, l'autre, le mal. Il y a la lutte entre le bien et le mal, le positif, le négatif, et le corps est le lieu par excellence de cette guerre entre ces deux principes antagonistes. Chacune des deux parties du corps peut être au service du bien, bien se conduire, discipliner le corps pour aller dans le chemin de la justice de la Torah. Et du côté du mal, côté gauche, bien sûr, il y a des désirs, des pulsions trop dominantes qui engendrent toutes sortes de perturbations et de règlements. Toute cette littérature éthique est fondée sur ces dérèglements et donne des conseils pour éviter que cette partie ne prenne le dessus. Danger, bien sûr, danger à se laisser entraîner par ce dérèglement de pulsion. Il faut, d'autre part, éviter tout ce qui est du côté de l'hybridité, de la mixture, du mélange. Ce qui est dévalorisé, c'est ce qui mélange, c'est ce qui mixe, c'est le côté poreux. Tous les flux, le moment où la personne se laisse emporter par ses désirs, eh bien, ce moment-là comporte une part de danger des forces du mal. S'agit-il d'une tradition ou d'une effervescence buissonnante et buissonnière? Il n'y a pas de dogme dans le judaïsme. Les traditions, au pluriel, sont dépeintes avec des points de vue pluriels. Culture du choix, culture de la discussion, culture de la controverse. Les commentaires et la lecture des textes sont infinis. La tradition n'est pas une, mais elle est plurielle. Comme souvent, pour les problèmes profonds, celui abordé par ce livre s'énonce clairement. Si Dieu a fait l'homme à son image et que l'homme a un corps, faut-il en déduire que Dieu lui-même a un corps ? Peut-on s'interdire cette déduction sans du même coup jeter l'opprobre sur le corps ? En refusant les deux conclusions, la tradition juive n'a évidemment pas adopté une position commode. Et c'est bien pourquoi elle est aussi stimulante pour la réflexion. Il y a ce dont ce livre traite, c'est-à-dire la conception juive du corps humain. Il y a ce qu'en filigrane, il met en question. Rien de moins que la notion de tradition juive. D'une certaine manière, rien n'est plus typiquement juif que la tradition, la Kabbalah, entendue comme la réception, la transmission, l'acceptation de normes, de règles, de textes, de pratiques communes, avec l'idée d'une continuité ininterrompue, sans brisure ni reniement. Je recite là Jean Baumgarten. Transmettre la tradition est une des tâches que tout juif doit accomplir. D'où cet adage bien connu du Talmud, le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étudient. D'un autre côté, le judaïsme n'a rien secrété de comparable à l'Église catholique, cette institution porteuse d'une vérité officielle. Être juif, ce n'est pas apprendre par cœur un catéchisme, c'est lire, se confronter au texte, affronter ses difficultés, voire ses contradictions. D'où l'importance de la Torah orale, du Talmud, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne forme pas une tradition unifiée. La tradition juive, c'est l'acte de transmettre, sachant que ce qu'il y a à transmettre est tout aussi bien la pluralité des interprétations, une pensée ouverte, buissonnante et buissonnière, dit Jean Baumgarten, un assemblage de constructions discordantes, désordonnées. Et s'il est un point sur lequel cette discordance, qui est aussi une richesse, est le plus frappante, c'est bien sûr la question du corps. Un rationaliste voit aisément comment le Dieu unique et éternel de la Bible ne peut rien avoir de corporel. Avoir un corps est forcément une limitation, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Un corps vieillit et son intériorité se distingue de son extériorité. Or, rien ne saurait échapper à Dieu, à l'unique, et l'éternité est la moindre de ses qualités. À ce raisonnement de Maïmonide que partageront les philosophes, on pourrait toutefois objecter la lettre de la Torah. En effet, à maintes reprises, la Torah mentionne des parties du corps de l'Éternel, sa bouche quand il s'adresse au prophète, ses yeux, ses oreilles, son visage, ses mains. Le livre dit bien sûr que ces parties du divin corps ne sauraient être visibles pour un être humain, ce qui laisse supposer que ce corps n'est pas tout à fait de même nature que ce que nous connaissons sous ce nom. Mais ce serait tout de même un corps. La réponse du philosophe est prévisible. Ce sont là des manières de parler, des métaphores, indispensables pour une humaine compréhension, mais qui ne sauraient être prises au pied de la lettre. L'argument peut satisfaire le rationaliste, mais sans doute pas l'adepte de cette lecture littéraliste qui caractérise justement l'approche juive de la Torah. Le rationaliste pourrait d'ailleurs objecter que si Dieu fit l'homme à son image, il faut bien supposer que, en quelque manière, l'Éternel a lui aussi quelque chose comme un corps. Dire qu'une chose est à l'image d'une autre n'est pas dire qu'elles sont identiques. C'est même laisser entendre qu'elles se différencient sur des points non négligeables. On pourrait supposer qu'en tant qu'image de Dieu, l'être humain lui ressemble, comme le dessin ressemble à l'objet dessiné, avec deux dimensions au lieu de trois. Subsisterait cependant une difficulté liée au fait que c'est seulement l'homme qui, parmi toutes les créatures, est dit à l'image de Dieu. Ce qui ramènerait vers l'idée que ce n'est pas son corps qui le fait à l'image du Créateur, mais ce qui constitue sa spécificité par rapport aux autres êtres vivants, à savoir sa maîtrise de la parole et la pensée qu'elle rend possible. Petite citation, extrait du chapitre « Les mesures de Dieu ». La représentation la plus opposée aux conceptions spiritualistes du divin se trouve dans le « Shi'ur Koma », la mesure de la stature divine, où la vision du corps mystique de Dieu, dénommé Kavod, gloire divine, ou bien Guf Ashrina, le corps de la présence divine de Dieu, attribuée à Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, deux Tanaïm du IIe siècle. Les textes décrivent Dieu comme un être humain gigantesque. Ses organes sont reliés à des noms secrets et leur combinaison possède des pouvoirs théurgiques. Ces visions, qui correspondent à un stade ancien du monothéisme, avant que le judaïsme rabbinique ne s'impose comme la doctrine dominante uniforme, irrigueront les traditions kabbalistiques jusqu'aux textes les plus tardifs. Le dualisme gnostique est fondé sur la séparation entre d'un côté la plénitude, perfection divine, le monde d'en haut, idéal parfait, archétypal, inaccessible, caché aux humains, et de l'autre, ses manifestations phénoménales, imparfaites. L'idée d'une dichotomie entre les dieux ne pouvait qu'être difficilement acceptable telle qu'elle dans la pensée juive. Comment en effet pouvoir différencier le dieu ontologique, transcendantal, invisible, indéfinissable de son apparence et de sa forme ? Le Shi'ur Koma présente une vision qui plonge ses racines dans le terreau gnostique tout en développant une conception différente. Dieu apparaît au mystique assis sur son trône, mais il est difficilement visualisable en raison de ses dimensions surhumaines. Il s'agit non pas des dimensions de la divinité en soi, qui reste invisible aux yeux des humains, mais des mesures, shi'ur, de son enveloppe, de son apparence corporelle. Ce qui apparaît au mystique lors de son ascension vers les sphères supérieures, c'est le créateur du monde, le Yotzer Bereshit, dans sa forme mesurable, en l'occurrence un corps aux dimensions absolument gigantesque. Et voici ce que cela donne dans le texte, justement. dans le shiur koma, l'aspect de son visage et l'aspect de ses joues est comme la mesure de la brise du vent et comme la création du souffle de vie. Son éclat resplendit et il est redoutable quand il surgit des ténèbres. Nuées et brouillards l'entourent et tous les princes de la face sont renversés devant lui à cause de la force de la vision de sa beauté et de son attrait. Nous ne possédons aucune mesure, Mida, mais les noms nous sont révélés. Et j'achèverai ici cette présentation de cet ouvrage de Jean Baumgarten, Le Petit Monde, le corps humain dans les textes de la tradition juive de la Bible aux Lumières, chez Albin Michel, 2017. Un ouvrage absolument passionnant. Mmh.